Comment analyser les secousses politiques en Italie après la démission du président du Conseil, Mario Draghi, jeudi dernier? Le chef de l'État, Sergio Mattarella, a annoncé la dissolution du Parlement. Des élections anticipées auront lieu cet automne. Des favoris se détachent déjà. Une coalition dite de centre-droit qui réunirait Forza Italia, le parti de Silvio Berlusconi, et l'extrême droite avec la Ligue et Fratelli d'Italia. À quelles conséquences économiques et géopolitiques faut-il s'attendre? Réponse de nos invités à partir de 13h20 dans la seconde partie de l'émission. Mais d'abord, comment expliquer qu'on ne réagisse pas ou plus face au changement climatique?
Ça fait 15 ans qu'on annonce en fait que les scientifiques nous disent de façon extrêmement sérieuse que le climat se réchauffe, que ça va avoir des conséquences, qu'il va y avoir des canicules, qu'il va y avoir des sécheresses, que des gens vont mourir, que des gens vont devoir migrer, que cette planète pourrait ultimement, à la fin du siècle, devenir partiellement inhabitable. Et pendant tout ce temps, on a fait « oui, oui, intéressant, très bien, bon ».
Aujourd'hui, nous sommes dans un déni collectif sur la situation climatique, un déni qui met nos enfants en danger, il faut bien comprendre ça. La société que nous sommes en train de leur laisser est une société dangereuse pour eux, et ça, nous le faisons au titre du fait que nous ne voulons pas changer nos modes de vie. Mais à un moment donné, il s'agit de l'avenir de nos enfants, nous avons cette responsabilité-là.
On aime tous le beau temps, mais ce ne sera pas du beau temps. Ce sera potentiellement mortel. Ce sera bref, mais ce sera brutal.
John, je veux que nous soyons heureux de cette météo. Je ne sais pas si quelque chose est arrivé aux météorologues pour que vous soyez tous un peu fatalistes et annonciateurs de malheur. Parce qu'à chaque fois que j'allume la télé, en particulier sur la BBC, tout le monde parle de la météo, disant qu'il va y avoir des tonnes de décès. Mais est-ce qu'on n'a pas toujours eu de la chaleur ?
Hot weather.
Vous trouvez qu'on n'a pas été assez clair? On est en train d'essayer de vous dire que notre planète est sur le point d'être détruite.
D'accord.
Eh bien, en fait, c'est notre manière de faire ici. Vous savez, on dédramatise les mauvaises nouvelles.
Ce dernier extrait était issu, vous l'avez peut-être reconnu, du film Don't Look Up, dans lequel des scientifiques essaient d'alerter le monde qu'un grand danger, c'est certain, les attend, mais en vain. Pourquoi détruit-on la planète? À quel moment allons-nous agir alors que chaque année un peu plus, et cet été encore, le changement climatique se fait sentir? Hausse des températures, incendies, inondations. Nous sommes de plus en plus nombreux à prendre conscience de l'urgence de la situation. D'ailleurs, d'ici 30 ans, plusieurs régions du monde seront inhabitables. Face à ce drame annoncé, une minorité de militants sont tout de même prêts à radicalement changer de mode de vie, d'économie. Deux scientifiques français proposent une hypothèse. Notre cerveau, tel qu'il fonctionne, ne nous pousse pas à sauver la planète. Une zone du cerveau en particulier nous intéresse aujourd'hui, le striatum, qui nous pousse à consommer en nous récompensant avec une molécule de plaisir. C'est ce que vous écrivez dans Human Psycho, comment l'humanité est devenue l'espèce la plus dangereuse de la planète. Bonjour Sébastien Boller.
Bonjour.
Vous êtes docteur en neurosciences et rédacteur en chef de la revue Cerveau et Psycho, auteur également d'un autre ouvrage, Le bug humain, pourquoi notre cerveau nous pousse à détruire la planète et comment l'en empêcher. Deux livres parus chez Bouquin, on reviendra sur vos travaux longuement. Nous verrons qu'ils sont aussi critiqués, ils nous permettent en tout cas d'ouvrir le débat. Comment expliquer l'inaction climatique? Nous en parlerons également avec vous. Hortense Chauvin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste spécialisée écologie, à reporter, co-autrice de Pétrole, le déclin est proche, aux éditions du Seuil, paru en septembre dernier. Merci à tous les deux d'être là. Commençons avec vous, Sébastien Boller. Expliquez-nous votre hypothèse. Où se trouve le striatum d'abord et à quoi sert-il?
Le striatum, c'est une zone centrale de notre cerveau, qui est vraiment au milieu du cerveau.
Et sous le cortex.
Sous le cortex. Le cortex, c'est la partie extérieure de notre cerveau et qui nous permet de parler, de communiquer, de penser de façon abstraite, de façon intelligente, qui nous permet simplement de prendre conscience de ce qui va arriver. Effectivement, toutes les projections climatiques, ça, c'est le cortex, c'est l'intelligence. Et en dessous du cortex, il y a cette partie du cerveau qu'on appelle le striatum et qui est la plaque tournante d'un réseau qu'on appelle le système de récompense. C'est-à-dire que c'est un ensemble de neurones qui nous motive à agir d'une certaine façon en nous récompensant avec du plaisir, avec une molécule qui s'appelle la dopamine. Et ce striatum nous récompense d'une façon qui fait sens en fait dans l'histoire de l'évolution de l'humanité, parce que il nous récompense quand on adopte des comportements qui nous ont aidés à survivre pendant des millions d'années. Et ce sont les comportements de base qu'on aime faire parce qu'on a de la dopamine quand on le fait, parce que notre striatum nous récompense avec cette dopamine quand on le fait. Et ces comportements de base qui nous aidaient à survivre, c'est très simple. Pour comprendre lesquels ils sont, il faut se replacer dans les conditions de vie de nos ancêtres pendant des millions d'années. Les premiers humains, Homo habilis, Homo erectus, il y a 2 millions d'années, dans un milieu naturel, hostile, sauvage, les conditions de la survie, c'était quelques comportements fondamentaux. C'est manger, hein, c'est se reproduire pour transmettre la molécule d'ADN qui est le support de la vie de l'espèce. C'est acquérir aussi un statut social dans un groupe, parce que plus on a du statut social dans un groupe, plus on a accès à la nourriture ou à des partenaires sexuels, ce qui augmente les chances de survie à court terme et à moyen terme. Et c'est également minimiser ses efforts. Ça, c'est le principe de base de tous les êtres vivants depuis les premières bactéries dans les premiers océans, l'homéostasie, qui consiste à minimiser ses dépenses d'énergie et maximiser ses entrées d'énergie. Donc à chaque fois, là encore, qu'on va minimiser ses efforts, notre striatum nous récompense avec de la dopamine, on a du plaisir, et ça a plein de conséquences après sur nos comportements de tous les jours. Et la cinquième grande motivation qui va être récompensée par de la dopamine, c'est de trouver de l'information dans le milieu qui nous entoure, parce que dans un milieu naturel, dans un milieu hostile, détecter des informations très discrètes sur le passage d'un animal, une proie sur laquelle on va pouvoir se nourrir, au contraire, une trace d'un prédateur pour lui échapper, c'est une question de vie ou de mort. Et donc, ce striatum a développé une très grande sensibilité aux informations dans le milieu naturel. Donc, on a ces 5 grands besoins, ces 5 grands comportements qui sont récompensés depuis des millions d'années par ce système de récompense de notre cerveau. Et c'est génial, en fait. C'est ça qui fait qu'on existe, en fait. Ce système, il existe même avant l'émergence des premiers humains. Et chez tous les vertébrés, chez une musaraigne, chez un rat, chez un chien, il y a ce système-là qui est le garant de la survie chez les animaux. Ce qui a changé dans la destinée de l'espèce humaine, c'est le développement de notre intelligence qui est liée à notre cortex cérébral. Ce cortex cérébral qui s'est développé depuis 200 000 ans de façon disproportionnée par rapport à d'autres animaux et qui nous a permis de développer toute une technologie, des outils extrêmement perfectionnés qui ont eu pour conséquence en fait de satisfaire ces 5 grands besoins de base du striatum sans limite. C'est ça qui s'est passé, qui est incroyable. C'est qu'aujourd'hui, par exemple, vous prenez le besoin de s'alimenter. Effectivement, chez un Homo erectus, c'était limité par les ressources de l'environnement. C'est pas facile d'aller se taper un mammouth à la lance pour essayer d'avoir à manger. Mais aujourd'hui, le cortex cérébral a inventé des moteurs à explosion, des machines agricoles, des engrais, des OGM pour nourrir, en fait, ce striatum en boucle. Et le drame apparaît quand on sait que le striatum, lui, n'est pas fait pour s'auto-limiter. Et évidemment, parce que il y a 1 million d'années, si vous faisiez un régime dans la savane, vous risquiez vite de passer à la trappe. Donc lui, il est fait pour prendre tout ce qu'il peut quand il peut, normal dans un milieu hostile. Mais quand il y a le cortex qui lui donne des rendements agricoles infinis, sans limite grâce aux énergies fossiles, lui, il s'arrête pas et donc il prend et donc ça donne l'obésité, la sédentarité et des choses comme ça. Et on peut décliner ça sur les 5 grandes motivations du striatum.
C'est ce que j'allais vous demander. On n'a pas de prise sur cette zone-là de notre cerveau, ou alors ça produit un plaisir tellement grand que on ne raisonne pas.
Alors, on peut avoir prise, bien sûr, puisqu'il y a d'autres parties du cerveau, comme le cortex préfrontal, à l'avant du cerveau, qui sont capables de modérer les impulsions du striatum. Et on le voit tous les jours quand on essaye de pas trop manger, quand on essaye de pas trop surfer sur Internet, quand on essaye simplement de pas céder à nos impulsions. En fait, à longueur de journée, on respecte des règles, par exemple en société, qui font intervenir cette partie de notre cerveau, qui intègre les limites, qui intègre les règles de la vie en société, qui font qu'on fait pas sans arrêt tout ce qu'on veut. Mais dans notre comportement de consommation, il y a en fait une sorte de permis de consommer qui fait que le cortex préfrontal, le siège de la volonté, laisse souvent la bride assez lâche au striatum. Mais c'est pas une fatalité. On pourrait très bien activer beaucoup plus notre cortex pour mettre des limites à notre striatum. C'est l'enjeu de la crise dans laquelle on est. Pour l'instant, on a créé un monde qui est fait pour donner tout ce qu'il veut au striatum sans le limiter. Ça, c'est le principe de croissance, c'est le dogme de notre société qui répond à un besoin de croissance des cellules nerveuses qui donnent de la dopamine dans notre striatum, parce qu'on sait que elles fonctionnent d'après un principe de croissance biochimique, c'est-à-dire qu'elles se lassent très vite de ce qu'elles ont, et pour produire de la dopamine, elles ont besoin d'augmenter sans arrêt les doses. Donc notre cerveau est habité par ce principe de croissance biochimique, et manque de bol, ou décision coupable, certainement les deux, depuis des décennies, on a créé un monde qui est une véritable caisse de résonance pour ce principe de croissance de notre cerveau.
Donc pour vous, ça ne change rien d'être de plus en plus conscient des problèmes environnementaux, d'en parler chaque année, chaque été encore plus. Le striatum prend encore le dessus dans notre façon de fonctionner.
Il y a une grosse différence entre la prise de conscience et l'action. C'est-à-dire que notre cortex a conscience, mais celui qui agit, c'est le striatum. Celui qui prend des décisions quand vous êtes devant votre hamburger, ou quand vous avez la possibilité d'aller faire le Black Friday, ou de prendre un vol low cost pour aller à l'autre bout du monde pour 150 euros, là c'est la dopamine. Là c'est l'attrait de l'instant. C'est pas la projection dans le futur. Donc c'est pas de l'intelligence, c'est de la pulsion, c'est du sous-cortical. Et là, il faut un effort particulier pour convertir la conscience en blocage, en fait, de la pulsion. Et on est assez peu armé pour ça aujourd'hui. On a grandi dans un monde qui, au contraire, obéissait au précepte de donner libre cours à nos désirs. Et les cerveaux aujourd'hui des personnes qui ont un pouvoir d'achat, qui sont dans le jeu de l'économie, c'est des cerveaux qui ont grandi dans ce monde-là et où les connexions neuronales entre le cortex qui a conscience et le striatum qui veut, qui désire, elles n'ont pas été hyper développées. Et ça, il faudrait arriver à le changer. Et en tout cas, à l'amorcer chez les jeunes générations, qui souvent aussi, malgré les jeunes qu'on voit dans les marches pour le climat, sont aussi bien souvent dans la consommation.
On pourrait renverser ce système et valoriser non pas la consommation ou la surconsommation, mais un mode de vie sobre, plus sobre en tout cas.
Oui, alors il y a plusieurs pistes pour ça. Il y a d'une part muscler les connexions entre le cortex et le striatum pour apprendre à patienter, ne pas être des incontinents cérébraux, c'est-à-dire ne pas se jeter sur toutes les offres de services dans la journée, par exemple, ou de voyages à grande vitesse, mais prendre son temps, c'est-à-dire réapprendre à attendre, à avoir des gratifications. Donc ça passe par un apprentissage de la frustration. C'est important. On voit les bénéfices que ça a dans l'éducation des enfants, notamment. Les enfants à qui on donne pas tout ce qu'ils veulent quand ils veulent, ensuite donnent des adultes beaucoup plus épanouis. Et on voit ces fibres dans leur cerveau qui se développent. Et ensuite, il faut prendre en compte justement cette réalité qui est l'existence de ces circuits à dopamine, la puissance de la dopamine sur nos envies, pour se demander comment est-ce qu'on peut fournir à notre cerveau cette dopamine dont il a besoin sans que ça détruise tout autour de nous. Et pour ça, il y a plusieurs pistes qui sont envisageables. Il y a remplacer la quantité par la qualité, c'est-à-dire avoir du plaisir, non pas en augmentant sans arrêt les doses et notre impact carbone sur notre environnement, mais peut-être en consommant moins, mais en ayant plus conscience des petits plaisirs qu'on a au jour le jour. Et là, c'est une autre capacité de notre cerveau qui est la conscience, c'est autre chose que l'intelligence. La conscience qui est aussi un produit de l'activité de notre cortex cérébral et qui peut être développée par une hygiène personnelle, quotidienne, de prendre le temps, par exemple, devant son assiette, non pas de se gaver de chips en regardant une série, parce qu'à ce moment-là, on sait que la conscience est moins disponible pour les saveurs, parce qu'elle est happée par la série télé qu'on regarde, et à ce moment-là, on se rend compte qu'on mange moins, on absorbe moins de calories, on a plus de plaisir. Donc le développement de la capacité de conscience de notre cerveau est un axe fondamental. Aujourd'hui, ça peut s'appuyer sur notamment les disciplines de pleine conscience qui connaissent un succès grandissant dans la société. Vous savez, la méditation de pleine conscience, ça agit sur ces parties de notre cerveau. C'est plus qu'une mode, c'est un engouement mondial aujourd'hui. C'est en train de changer vraiment l'approche qu'on a de nos modes de consommation. Il y a un autre axe possible qui est de développer l'altruisme. C'est-à-dire de se dire, plutôt que d'accumuler des biens matériels qui vont flatter mon système de dopamine parce que ça me donne l'impression d'être important dans mon groupe, ça me donne de l'estime de soi, ça me donne du statut social, on le voit très bien. Par exemple, quand on gagne des likes sur Internet, on voit de la dopamine qui s'écoule. Plutôt que de se dire, je vais tout tirer à moi, je vais essayer d'aller vers un monde plus tourné vers le partage. Et là, ce qui est encourageant dans ce sens-là, ce sont des expériences d'imagerie cérébrale qui datent il y a maintenant 2 ou 3 ans, et qui montrent que dans certains cas, on peut avoir vraiment de la dopamine et l'activation de cette fameuse zone du striatum quand on partage, plutôt que lorsqu'on accumule. Et le point critique de ces études, c'est d'avoir montré que c'est davantage le cas chez les femmes que chez les hommes. Alors ça posait une grande question. Pourquoi est-ce que les femmes ont du plaisir en partageant et les hommes beaucoup moins? Il y a eu des tentatives d'explication liées aux hormones, aux chromosomes X, chromosome Y. Alors il peut être une petite base derrière, une petite base innée, mais il y a surtout une base de conditionnement social, en fait, de plasticité du cerveau en réponse aux normes sociales qu'on reçoit, puisque ce qui est constaté à travers toutes les sociétés aujourd'hui à la surface de la planète, c'est une éducation avec notamment des petites filles qui, dès le plus jeune âge, sont valorisées socialement quand elles partagent. Alors que les petits garçons, ils sont plutôt valorisés quand ils ont un comportement de compétition. Voilà, parce qu'on leur dit, c'est bien, faut pas se laisser faire, la vie est dure, faut que tu gagnes ta vie, faut pas que tu te laisses marcher sur les pieds. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans un cerveau humain, le cerveau d'une petite fille qu'on valorise quand elle se comporte de façon altruiste et empathique? Eh bien, comme le striatum veut du statut social, il associe ça au fait de partager, donc il donne de la dopamine quand on partage. Ce que ça veut dire, c'est que ce système est plastique, il n'est pas figé, et qu'il dépend de la norme sociale qui va lui être inculquée. C'est-à-dire qu'on peut créer des cerveaux addicts à l'altruisme, au partage, à la sollicitude, à l'empathie, si on arrive à développer une norme dominante qui n'est plus de mettre en prime time aux heures de grande écoute ceux qui ont réussi dans une logique de compétition et de réussite individuelle.
Parce que toutes les sociétés ne valorisent pas la consommation, on peut penser à des peuples indigènes, autochtones. Ouais. Votre travail, il s'applique du coup quoi, aux sociétés occidentales principalement?
Ce qui se passe, c'est que on peut activer le striatum de mille façons. Notre société a créé une norme qui valorise la croissance et la réussite individuelle. Et c'est elle qui s'est imposée parce qu'évidemment, c'est une société qui libère des énergies incroyables, notamment à travers l'exploitation du sous-sol, à travers les modèles économiques qui vont avec, qui ont complètement écrasé les autres. Mais effectivement, il y a des sociétés de peuples premiers où celui qui est valorisé socialement, c'est pas celui qui accumule, mais c'est celui qui arrive à donner le plus à la communauté. Donc c'est tout à fait possible. Comment est-ce qu'on peut sortir de ça? C'est toute la question. Mais il faut savoir que on a tous une petite tendance quand même à vouloir satisfaire nos besoins premiers et que tant qu'on crée un modèle économique qui va dans ce sens-là, on est vraiment très très mal engagé.
Sébastien Boller, est-ce que la croissance verte peut être une solution?
Ça dépend de ce qu'on appelle la croissance verte. Là, j'ai besoin qu'on me le définisse très, très précisément.
Qu'on soit dans un développement économique, dans une croissance, mais qui serait durable.
Oui. Alors, il y a la question de l'usage qui est fait de la force de l'argent, et notamment de quel type de finance peut être développé aujourd'hui. Les projets de finance durable qui existent, moi je ferais rentrer ça dans la croissance verte, c'est-à-dire que le but de l'utilisation qu'on fait des masses monétaires ne soit pas de produire des rendements à court terme pour des actionnaires, mais des rendements à long terme, non pas en masse financière, mais en projet durable, en projet qui puisse être mesuré en termes d'impact positif, notamment sur les écosystèmes et sur la durabilité de la combinaison entre les écosystèmes et l'humanité. Il y a des projets de finance durable qui sont extrêmement prometteurs de ce point de vue-là. Ça, c'est de la croissance verte, c'est de la croissance qui repose sur des échéances temporelles totalement différentes, puisque ce sont des retours sur investissement d'une part qui ne sont pas mesurés en masse monétaire au bénéfice d'actionnaires, mais en retombées sur les écosystèmes, et surtout à des échelles temporelles de 10, 20, 30 ans. Et ça va complètement contre l'instinct de notre cerveau sous-cortical qui, lui, veut des retours sur investissement très brefs. Le striatum, lui, ne raisonne que dans l'instant présent. Il est absolument incapable de se projeter à 20, 30 ans. Et donc, c'est là qu'on peut faire un effort vraiment pour aller vers une croissance sur d'autres échelles temporelles. Et je crois qu'il y a énormément à faire de ce point de vue-là, effectivement.
Il y a deux semaines, Sébastien Boller, des chercheurs en neurosciences et en sociologie ont mis en garde contre la thèse que vous défendez dans une tribune publiée dans le journal Le Monde. Ils jugent votre travail, je cite, « scientifiquement infondé », une thèse, écrivent-ils, qui n'a pas fait l'objet d'une expertise contradictoire et qui disqualifie les projets politiques de décroissance ou de stabilité basés sur la délibération démocratique. Que leur répondez-vous ?
Je leur réponds qu'en fait, ces connaissances sur le striatum, le système de récompense, C'est le résultat de centaines et de milliers d'études qui sont publiées dans toutes les principales revues aux premières publications à langue anglo-saxonne. Donc il devrait se documenter, parce que c'est même pas que ça a fait l'objet d'une thèse contradictoire, c'est que c'est l'état de l'art de la recherche dans ce domaine, premièrement. Et ensuite, sur le fait que ça déresponsabilise ou que ça peut distraire d'une action politique vers une décroissance, c'est exactement le contraire. Et c'est-à-dire qu'en fait, on ne peut, comme disait Chauderlot de Laclos dans Les Liaisons dangereuses, pour combattre le vice, il faut savoir bien le peindre. C'est-à-dire qu'on ne peut mettre en œuvre une politique de décroissance que si on connaît les moteurs qui nous poussent à la croissance et qui sont bien souvent inconscients. Et tant qu'on n'a pas pris conscience de ce qui nous pousse à vouloir toujours plus, c'est peine perdue si on veut aller vers autre chose. Et je crois qu'aujourd'hui, on sait tous qu'on a une tendance à la croissance, qu'on veut toujours plus, qu'une fois qu'on a eu une augmentation, on est tout content au jour J, et puis qu'un an après, ben, on en veut une nouvelle, qu'on fonctionne tous comme ça, et que je crois que vouloir nier ça, c'est une forme de déni qui n'est plus un déni climatique, mais un déni comportemental. Il faut avoir conscience de nos faiblesses en tant qu'être humain, en tant qu'individu, pour pouvoir les contrecarrer, pour pouvoir mettre en œuvre justement cette capacité du cortex préfrontal à bloquer nos pulsions, à aussi être maître de nous-mêmes, à pas tout rejeter sur le politique aussi, à être des consommateurs plus responsables, à arriver à se faire mal aussi pour se dire, bah, il y a une part de sacrifice là-dedans, pour arriver à des résultats. Et moi, mon objectif, c'est vraiment d'arriver à accomplir notre humanité en dépassant ce moteur de croissance bestiale qu'on a en nous, pour devenir des êtres humains plus éclairés. Et ça passe par l'action politique. Parce qu'aujourd'hui, notre responsabilité, c'est de se rendre compte qu'on a créé, en fait, un univers de croissance économique, financière et politique qui ne fait que répondre à ce cerveau reptilien. Et que notre responsabilité, c'est de proposer autre chose. Mais je pense qu'on ne peut
faire que si on a
un diagnostic. Bah non, le cerveau, bah lui, il a ses penchants, d'accord, on le sait tous. Mais là où on est coupable, c'est d'avoir créé un système économique, financier et politique qui, au lieu de modérer ces penchants-là, les a encouragés. Donc je pense qu'au contraire, c'est ça qui nous amène à une responsabilisation. Et toutes les personnes, moi, j'ai donné des centaines de conférences depuis 3 ans sur ces questions-là, qui ont pris conscience du fonctionnement de leur cerveau sur ce point-là, reviennent en me disant, maintenant, j'ai plus de liberté. Et j'ai plus de responsabilités dans ma vie quotidienne, parce que avant, quand j'avais des stimulations publicitaires, des stimulations à consommer, ben, je marchais, je décollais, je sortais ma carte bleue, je me rendais pas compte. Maintenant, je me dis, ah oui, en fait, c'est que j'ai ce petit truc dans mon cerveau qui me pousse à le faire. Et c'est une occasion de résistance, de se dire, ben non, je ne vais pas céder à ces penchants-là. Et c'est là que les gens me disent, merci, on peut enfin acquérir plus de liberté et résister à nos penchants. Il n'y a pas de déterminisme dans le cerveau, il y a des forces profondes dont on peut avoir plus ou moins conscience.
Et 1, 2, 3, 2, 3, c'est un crime contre l'humanité. Et on est chaud, plus chaud, plus chaud que le climat. Et on est chaud, plus chaud, plus chaud que le climat. Et on
justice sociale, justice climatique.
France Culture, le magazine du week-end. Margot Delpierre.
Slogan scandé par de jeunes manifestants à Besançon qui réclament à nos dirigeants d'agir pour protéger la planète. J'ajoute que la France a été condamnée pour inaction climatique. Je me tourne vers vous, Hortense Chauvin, pour continuer cette discussion. Je rappelle que vous êtes journaliste chez Reporter. D'abord, que vous inspire le point de vue de Sébastien Boller, et surtout, pourquoi, selon vous, repousse-t-on sans cesse cette bifurcation écologique ?
Oui, alors ce que m'inspire votre point de vue, c'est toujours intéressant de savoir quels sont les problèmes de notre cerveau en ce qui concerne la crise écologique, mais je pense que un des problèmes que j'identifie dans votre thèse, c'est qu'elle fait finalement beaucoup peser la contrainte sur l'individu, et pas tant que ça sur les repères structurels qui peuvent nous pousser à la consommation. Je prends un exemple personnel, j'ai un très vieux portable qui, à cause de l'obsolescence programmée logicielle, m'empêche aujourd'hui de l'utiliser dans un cadre professionnel. Et dans ce cadre précis, c'est pas moi qui ai envie de consommer, c'est le fait qu'il n'y ait pas de réglementation qui oblige les entreprises à réparer les objets ou à offrir la possibilité de les changer qui me pousse à consommer. Et ça, c'est vrai pour plein d'objets et pas seulement pour moi. Par exemple, si on prend le trafic routier, il y a beaucoup de personnes à la campagne, j'imagine, qui voudraient se passer de leur voiture. Mais comme tout l'urbanisme est construit autour de la voiture, ils sont obligés d'aller vers des usages énergivores. Et donc, pour répondre à votre question sur pourquoi est-ce que l'on repousse la bifurcation écologique. C'est justement pour ça, parce qu'elle implique des changements structurels qui sont tellement importants, qui impliquent de changer nos modes de vie de manière tellement profonde, que forcément c'est plus facile de promettre qu'on réussira à trouver une solution technologique miracle qui nous permettra de continuer à consommer sans émettre de gaz à effet de serre. Et aussi parce que dans notre système économique, il y a des groupes privés qui ont intérêt à nous pousser à la consommation. Par exemple, Total, on sait que depuis 1971, ils étaient au courant que leurs activités émettaient des gaz à effet de serre. Et pourtant, ils ont, enfin, et justement, malgré cette connaissance, ils ont fait en sorte, par des activités de lobbying, par leur communication, de minimiser le problème et d'aller à l'encontre de mesures politiques que vous évoquiez, qui auraient permis de limiter nos émissions de gaz à effet de serre, par exemple, en agissant contre la mise en place de taxation carbone. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qu'on ne peut pas évacuer. Il faut aussi agir à l'échelle structurelle, par exemple aussi en régulant la publicité qui nous pousse à consommer. Quand vous êtes confronté à des milliers de messages publicitaires par jour, même si vous avez envie de ne pas consommer, c'est difficile de s'extraire de ces pratiques.
Une réaction, Sébastien Boller?
C'est très juste. La question, c'est comment se fait-il que ces intérêts privés aient le pouvoir de maintenir en fait ces injonctions, ces obligations, ces verrous en fait dans lesquels on est pris. Et c'est là que tout ça se mélange, c'est-à-dire que si ces intérêts privés ont ce pouvoir, c'est parce qu'ils ont des revenus énormes et c'est parce que ce qu'ils proposent quand même trouve moyen de séduire une partie de nos concitoyens. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté des gens qui veulent changer, et puis d'un autre côté, on en voit énormément, je les vois autour de moi, même des ados qui disent « Ouais, je veux le dernier iPhone, sinon je suis largué par rapport aux autres, j'ai envie de me faire plaisir, j'aime bien manger gras et sucré, j'aime bien prendre des abonnements Netflix, parce que il y a quand même une grande partie d'entre nous, si ça marche, je veux dire, si cette offre est aussi lucrative, c'est qu'il y a un point d'ancrage. » Je veux dire, quand même, dans notre cerveau. Et là où c'est très intéressant, c'est qu'il y a un certain nombre de cerveaux qui maintenant disent non, qui voudraient changer, mais qui n'y arrivent pas parce qu'en face, il y a une masse, voilà, énorme qui tire un profit gigantesque de ce talon d'Achille, quand même, de peut-être encore 60, 70, 80% des cerveaux dans les pays d'Europe occidentale. Et quand on prend ceux des autres régions du monde, quand on prend ceux des Chinois, des Indiens, on a des régions du monde qui sont attirées en grande partie vers cette promesse de plaisir, de pure dopamine, ce qui montre quand même que si on réfléchit même à l'effondrement de l'Union soviétique, c'est un moment aussi où il y avait un certain nombre de citoyens qui disaient « moi aussi je veux jouir, moi aussi je veux ces produits de consommation-là ». Et donc c'est très difficile de jongler entre... Je crois que la question de la prise de conscience devient cruciale. C'est-à-dire à partir de quel moment il y a une masse critique de cerveau comme le vôtre, Hortense, qui dit « maintenant, moi je suis prêt, mais il y a des verrous ». Et puis aussi, je suis prêt à aller jusqu'où quand même, parce que c'est ça aussi la question. Se pose ensuite la question de transparence dans l'exercice de la politique, parce que quand on entre dans la question du lobbying, c'est la question de l'opacité. Et quand on entre dans la question du sacrifice de la décroissance, se pose la question qu'est-ce qui permet aux individus de renoncer à un certain nombre de commodités qui flattent leur système de récompense. Et on sait aujourd'hui, ça c'est très intéressant en anthropologie, quelque chose de déterminant, c'est la transparence et l'équité, puisque l'être humain est un coopérateur conditionnel, c'est-à-dire qu'il est capable de renoncer à énormément de choses s'il est persuadé que d'autres le font en même temps. Et donc, dès qu'il y a des systèmes d'opacité, des passe-droits, des privilèges, du lobbying, c'est impossible. Donc, ça rend le renoncement individuel très très douloureux et très difficile.
Hortense Chauvin, le capitalisme a toujours trouvé des solutions à tous les challenges économiques qu'il a eus. C'est ce que dit Geoffroy Roux-de-Bézieux, le patron du MEDEF, que vous citez dans un de vos articles. C'est en tout cas un débat en ce moment, sortir ou non du capitalisme pour lutter contre le changement climatique.
Oui, alors à titre personnel, oui, je pense que c'est absolument nécessaire pour la très bonne et simple raison, que le capitalisme est un système qui est fondé sur la recherche de profits constants, sur la croissance, et c'est un système qui est fondamentalement, intrinsèquement incompatible avec le fait qu'on vit sur une Terre qui a des limites physiques. C'est intéressant cette citation que vous citez parce que typiquement dans la bouche de Geoffroy Roux de Bézieux, au moment où je l'ai interviewé sur cette question, en fait, la défense du capitalisme passe par une promesse que l'on va réussir à aller vers des technologies vertes. En fait, un refus d'admettre qu'il y a des limites physiques à cette recherche de croissance et toujours promettre qu'on va réussir à inventer un avion vert, etc. pour toujours différer l'action, la bifurcation écologique que vous évoquiez tout à l'heure. Sauf que l'on sait aujourd'hui que c'est pas possible. La technologie ne pourra pas nous sauver de la catastrophe écologique que l'on vit aujourd'hui pour plein de raisons, dont l'une qui est l'effet rebond. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on met en place, on arrive à améliorer les techniques, on réinvestit toujours les gains énergétiques que l'on a réussi à trouver grâce à ces améliorations dans d'autres usages énergivores. Par exemple, dans le cas de l'avion, dès qu'on a réussi à améliorer l'efficacité énergétique des moteurs, on l'a utilisé pour développer l'avion low cost, etc., se voyager extrêmement loin, extrêmement longtemps, etc. Et donc aujourd'hui, on a une responsabilité historique. On a déjà réchauffé la température globale de 1,1 degré. Et il est de notre responsabilité de nous rendre compte, de réaliser que le capitalisme est un système fondamentalement incompatible avec l'équilibre écologique, la sobriété à laquelle, qui est nécessaire pour pouvoir vivre sur une planète à peu près viable.
La croissance verte dont on parlait au début de l'émission, alors c'est un mirage ?
Oui, très clairement, je pense que c'est un oxymore, encore une fois, parce que la croissance, elle implique d'extraire toujours plus de ressources, d'exploiter toujours plus de matériaux. Et ça, c'est totalement incompatible, encore une fois, avec l'exigence de sobriété à laquelle nous appelle la situation actuelle. Vous parliez de la finance verte, je pense pas que la croissance verte soit possible, justement parce qu'elle implique davantage d'exploitation de ressources.
Vous êtes aussi penché dans l'un de vos articles, Hortense Chauvin, sur l'amnésie environnementale, c'est-à-dire l'acclimatation des êtres humains au fil des générations à la dégradation de leur environnement. C'est une partie de l'explication à l'inaction climatique.
Oui, tout à fait. En fait, ce concept, il a été forgé par un biologiste marin qui s'est rendu compte que les chercheurs qui travaillaient sur l'état de l'océan prenaient toujours comme point de référence les stocks de poissons au début de leur carrière. Et en fait, oubliaient qu'avant ça, l'océan avait été beaucoup plus riche en poissons, qu'il y avait plus de requins, de mammifères marins, etc. Et c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que l'on avance dans le temps, on oublie la Terre était beaucoup plus riche, était beaucoup plus diverse en termes écologiques qu'avant. Et du coup, quand on se bat pour une terre plus habitable, en fait, on se bat pour une terre qui est déjà dégradée, parce que dans notre cerveau, c'est comme ça qu'on imagine une terre habitable. Et par exemple, c'est assez frappant dans le cas de l'hiver. On a complètement oublié qu'avant, les hivers au 19e siècle, même dans le bassin parisien, étaient très enneigés, beaucoup plus froids, etc. Et donc, en fait, on oublie ces références qui devraient... Enfin, en fait, si on se rappelait de ça, si on avait suffisamment de mémoire pour se rappeler qu'avant, par exemple, le bassin parisien était très vert, qu'il faisait très froid en hiver, etc., on pourrait vraiment prendre conscience de la gravité de la situation qu'on vit. Alors que là, moi, par exemple, si je prends mon exemple, j'ai moins de 30 ans, la terre que j'ai connue quand j'étais toute petite était déjà très dégradée. Donc, c'est difficile de se rendre compte de tout ce qu'on a déjà détruit. Quand on est en situation d'amnésie écologique, et cette amnésie écologique, on peut la combattre en tout simplement re-historicisant la question de l'écologie.
L'amnésie, la question de la mémoire, je vois que c'est un concept qui vous intéresse. Vous écoutiez Hortense Chauvin, Sébastien Boller.
Oui, parce que moi, ça m'effraie. J'ai souvent pensé à ce que Hortense vient de décrire. Je trouve ça extrêmement dangereux. Et je rapprocherais ça d'un mot omniprésent aujourd'hui qui est adaptation. Je trouve que ce mot devient mortel. C'est-à-dire qu'on, après les jours de canicule qu'on a connus, on a vu des titres dans tous les journaux qui disaient « Comment vivre à 40 degrés ? Quelle chaleur pouvons-nous supporter ?» Mais c'est terrible parce que ce qui est complètement occulté là-dedans, c'est la nécessité, pas de s'adapter, mais de réduire. C'est-à-dire que cette situation me fait penser à des gens qui sont dans un bateau, il y a une voie d'eau, Et ils disent, bon, comment s'adapter avec, pour vivre avec de l'eau jusqu'au cou? Comment s'adapter pour vivre avec de l'eau jusqu'à la bouche? Alors que la première chose à faire, c'est de bloquer la voie d'eau. Mais moi, je suis toujours sidéré par la capacité de stupidité collective, en fait. Je sais pas ce qui nous emmène là-dedans. Il y a quelque chose. Il faudrait une exigence de logique, maintenant. C'est pas possible, quoi. Moi, je ne peux plus continuer comme ça. La première chose à faire, c'est maintenant se prendre en main et de réduire et de décroître. Voilà. Et l'adaptation, bien sûr, on sera obligé. Mais si on ne pense qu'en termes d'adaptation, on est mort. Voilà. Parce que l'être humain ne peut pas s'adapter à tout. Il y a des, on peut s'adapter un petit peu progressivement. C'est l'histoire de la grenouille dont on chauffe l'eau, là, qui trouve ça agréable au début, qui dit, bah, ça va, je m'adapte. Et puis à la fin, il n'y a plus personne.
Sur ces belles paroles, parce que mon cerveau se dit, il faut une note d'espoir. Est-ce qu'il faut qu'on cède au fatalisme? Je vous pose la question à tous les deux. Hortense Chauvin, peut-être d'abord.
Non, je pense qu'il n'y a aucune raison de céder au fatalisme pour la bonne et simple raison qu'on a aujourd'hui plein d'alternatives, notamment celle de la sobriété qu'on a évoquée très brièvement. Aujourd'hui, il y a des études qui montrent que en mettant en place des actions de sobriété ambitieuses, par exemple, en réduisant la vitesse sur les routes, en mettant en place des régulations de la publicité, en limitant le chauffage dans les bâtiments, etc., etc., on pourrait réduire de 28% nos émissions de gaz à effet de serre. Maintenant, la seule chose qu'il faut faire, c'est être suffisamment lucide et ambitieux pour accepter de changer nos modes de vie et d'aller vers cette sobriété qui n'est pas forcément triste, qui peut aussi s'accompagner de plein de co-bénéfices. On sera en meilleure santé, on aurait plus de liens, on apprendrait à réparer, à être plus autonome. Donc non, ça c'est une perspective assez joyeuse, je trouve.
Sébastien Boller.
Oui, l'enjeu c'est d'arriver à trouver un enthousiasme et une capacité à se projeter et un désir à travers quelque chose qui n'est pas forcément naturel pour le cerveau primate, qui est de s'auto-limiter. C'est une forme d'étape ultime d'accomplissement de l'humain. L'humain se distingue des autres espèces par la présence justement de son cortex préfrontal, cette zone très développée à l'avant du cerveau, dont le rôle principal, en fait, c'est de s'empêcher de faire des choses. L'être humain est capable de se retenir beaucoup plus qu'un chimpanzé, beaucoup plus qu'un macaque, beaucoup plus que n'importe quel autre vertébré. Et ça doit nous faire réfléchir sur comment on a évolué. Pourquoi cette capacité de se retenir d'agir a été un avantage? Parce que si on est doté de cette fonctionnalité dans notre cerveau, c'est que ça nous a apporté un avantage. On sait, en fait, l'avantage que ça a procuré, c'est la capacité de vivre en société. Parce que vivre en société, ça suppose de se retenir, de faire plein de choses, tout le temps. Comment utiliser maintenant cette fonctionnalité neurologique qui est issue du progrès social de l'humain pour se retenir d'agir, non pas vis-à-vis de nos concitoyens, de façon agressive, mais vis-à-vis de ce qui n'est pas humain? Là, il y a un travail d'élargissement à faire qui est passionnant. Est-ce qu'on peut? Est-ce qu'on peut? Je sais pas. Mais c'est l'enjeu. La limite, elle est là. La limite. Donc, on est équipé, notre cerveau a cette structure-là, à l'avant du front, qui est capable d'intégrer la limite.
Merci beaucoup à tous les deux pour vos éclairages. Sébastien Boller, je rappelle que vous êtes docteur en neurosciences, rédacteur en chef de la revue Cerveau et Psycho, auteur notamment de Human Psycho, comment l'humanité est devenue l'espèce la plus dangereuse de la planète. Merci à vous aussi Hortense Chauvin, journaliste spécialisée écologie. Vous travaillez chez Reporter et vous avez coécrit Pétrole, le déclin est proche aux éditions du Seuil. L'Italie s'enfonce dans une nouvelle crise politique après la démission du chef du gouvernement, Mario Draghi. Des élections anticipées sont prévues cet automne. Nous y reviendrons juste après ce titre sur France Culture, What Might Have Been de Regina Spektor. Sickness and flowers go together. Bombing and shelters go together. Laughing and hurting go together. Finding and keeping go together. Canary yellow, mustard yellow, yellow tear stains on old pillows. Everyone loves a story about long, long ago. Pirates and parrots go together. Sticks and carrots go together. Loving and leaving go together. Lies and believing go together.
Business and crying go together. Passion and madness go together. Yellow and sadness go together. Canary yellow, mustard yellow, yellow tear stains on all pillows. Everyone loves a story about far, far away. About long, long ago, and what might have been.
13h24, What Might Have Been de Regina Spektor sur France Culture, extrait de son dernier album Home Before and After. Dans cette deuxième partie du magazine du week-end, retour sur la démission cette semaine de Mario Draghi, président du Conseil italien, le résultat d'une fronde au sein de la coalition gouvernementale, coalition large allant de la gauche à l'extrême droite, qui a donc éclaté au bout d'un an et demi. Mercredi, Mario Draghi, reconnu par la communauté internationale pour ses années passées à la tête de la BCE, la Banque Centrale Européenne, entre 2011 et 2019, a sollicité un vote de confiance des parlementaires italiens. Il l'a obtenu, mais sans vraiment de légitimité, parce que trois des piliers de la coalition, Forza Italia, le parti de Silvio Berlusconi, la Ligue du populiste Matteo Salvini et le mouvement 5 étoiles anti-système de Giuseppe Conte, ont refusé de participer à ce vote de confiance, mettant Mario Draghi dans une situation intenable.
Ne pas voter la confiance à un gouvernement dont on est membre est un geste politique clair, qui a une signification évidente. Il n'est pas possible de l'ignorer, car cela reviendrait à ignorer le Parlement. Il n'est pas possible de le contenir, car cela signifierait que n'importe qui peut le répéter. Il n'est pas possible de le minimiser, car il intervient après des mois de déchirement et d'ultimatum.
L'unica strada, se vogliamo ancora restare insieme, è ricostruire da capo questo patto.
La seule voie, si nous voulons encore rester ensemble, est de reconstruire ce pacte à partir de zéro, avec courage, désintéressement, crédibilité.
La voix de Mario Draghi, mercredi, pendant son discours devant le Parlement. Le lendemain, il a remis sa démission au chef de l'État, Sergio Mattarella, qui en a pris acte. Le président du pays a annoncé la dissolution du Sénat et de la Chambre des députés. Il y aura donc des élections anticipées fin septembre ou début octobre. En attendant, le gouvernement reste en place pour gérer les affaires courantes. Une crise politique qui fait craindre des conséquences économiques et géopolitiques. Les prochaines élections pourraient profiter à la droite, et particulièrement à Fratelli d'Italia, frère d'Italie, parti néofasciste, et à sa dirigeante Giorgia Meloni. Nous y reviendrons. Bonjour Anna Bonalume.
Bonjour.
Vous êtes italienne, journaliste politique. Vous avez suivi de près Matteo Salvini à la tête de la Ligue et vous en avez tiré un livre, Un mois avec un populiste, paru cette année chez Pauvert. Avec nous également en studio, Marc Lazare. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'histoire et de sociologie politique et pour quelques semaines encore, directeur du Centre d'histoire de Sciences Po Paris, auteur notamment de Peuple Crassi, la métamorphose de nos démocraties chez Gallimard. Marc Lazare, qui a eu raison de Mario Draghi ?
Bien, plusieurs protagonistes. D'abord, le mouvement 5 étoiles. Alors, le mouvement 5 étoiles, c'est un mouvement inclassable dans l'ensemble des populismes européens que l'on connaît. C'est vrai que ce mouvement a soutenu Mario Draghi, mais très rapidement, ça avait commencé en partir de 2018-2019, se divisait entre deux sensibilités. Une sensibilité qui avait pris conscience des responsabilités que signifiait l'exercice du pouvoir, et d'autre part une sensibilité protestataire. Et comme c'était un mouvement en plein déclin électoral, son chef, Giuseppe Conte, a essayé de faire monter les enchères en proposant à Mario Draghi une série de revendications à la fois sociales et écologiques, en quelque sorte, un ultimatum, on a entendu le mot prononcé par Mario Draghi. Et Mario Draghi a refusé, mais en même temps souhaité que le mouvement 5 étoiles puisse continuer à lui accorder la confiance. Donc la crise a commencé, pour aller vite comme cela, et se sont précipités ensuite Forza Italia de Silvio Berlusconi et la Ligue de Matteo Salvini, voyant l'opportunité justement d'avoir des élections anticipées qui sont prévues en fait le 25 septembre, parce que tous les sondages actuellement indiquent que ce qu'on appelle en Italie la coalition de centre-droit, qui regroupe à la fois donc Forza Italia, la Ligue et Frères d'Italie, normalement devrait l'emporter le 25 septembre.
Mario Draghi a commis lui-même quelques erreurs.
Incontestablement, Mario Draghi est arrivé en février 2021. Il avait deux objectifs clairs qui avaient été indiqués par le président de la République, Sergio Mattarella. D'abord, juguler l'épidémie de Covid-19 qui a tellement frappé l'Italie. Je vois ici Anna en face de moi, notamment la ville de Bergame et l'ensemble de l'Italie. Donc il y a un traumatisme très fort. Il fallait faire une campagne de vaccination que l'exécutif a très bien réussi. Et puis d'autre part, définir le contenu et engager le programme national de relance et de résilience. C'est près de 200 milliards d'euros qui sont déversés sur l'Italie. Et Mario Draghi, donc, avait cet objectif. Il l'a fait avec une équipe très resserrée autour de lui, d'une manière un peu ferme par rapport aux partis politiques, parce qu'il savait très bien que cette coalition hétérogène, un jour, arriverait à épuisement, et notamment dans la perspective de la fin de la législature qui était en 2023. Donc il voulait tenir les rênes, en quelque sorte. Mais progressivement, les partis politiques se sont manifestés, et c'est là, sans doute, la limite de Mario Draghi d'un point de vue politique. C'est un homme qui, certes, à la tête de la BCE, de la Banque Centrale Européenne, savait négocier avec les responsables politiques des pays européens. Peut-être qu'il connaissait pas toutes les subtilités du jeu politique italien. Et par conséquent, là où quelqu'un aurait enrobé un peu plus les choses, quelqu'un qui, selon la grande tradition italienne, de la médiation, un mot clé en Italie, la mediazione, écouter les différents protagonistes, essayer de trouver des compromis. Il a été très ferme, y compris dans son discours au Sénat mercredi, qui était d'une fermeté. C'était en gros, où vous me suivez, où on ira à la démission. Donc oui, il a certainement commis des erreurs. Et il est le perdant, il sort de cette expérience. Il est bien sûr jusqu'au 25 septembre et encore quelques jours après les élections à la tête de ce gouvernement pour expédier les affaires courantes, même si le président de la République, Sergio Mattarella, lui a dit « Attention, il y a des dispositions constitutionnelles qui vous permettent de prendre des décisions, même si vous n'êtes qu'un gouvernement de transition, notamment avec des décrets-lois d'application précisément du plan national, enfin du programme national de relance et de résilience. »
Vous mentionnez le chef de l'État Sergio Mattarella. Marc Lazare, vous me disiez en préparant l'interview que c'était aussi un peu l'échec du président Mattarella.
Oui. Oui, et ça c'est important de le souligner. Le président de la République en Italie, spécialement Sergio Mattarella, bénéficie d'une popularité considérable. Il est effectivement à la tête de la présidence de la République, et contrairement à ce qu'on croit en France, la présidence de la République, c'est pas simplement inaugurer les chrysanthèmes, pour reprendre une expression fameuse qui était en usage en France. Mais c'était l'homme de l'unité nationale. Et là, le gouvernement Draghi, moi j'ai toujours appelé le gouvernement Draghi-Mattarella. C'est un gouvernement de duo, c'est un tandem. C'est lui qui avait été choisir Mario Draghi, c'est lui qui avait donné les grandes orientations. Il y avait d'un côté un économiste, de l'autre un politique, et ils fonctionnaient ensemble. Et ils ont tellement fonctionné ensemble que le 14 juillet dernier, lorsque Mario Draghi va présenter sa démission, Mattarella lui dit non, on va prendre un peu de temps, vous allez revenir dans 5 jours. Histoire d'essayer de sauver, parce qu'il avait très bien compris ce qui était en train de se passer, Mattarella, essayer de sauver ce gouvernement. Mais j'allais dire pire que ça, ou mieux encore, il est intervenu en donnant des coups de téléphone durant la journée de mercredi à Silvio Berlusconi, à Matteo Salvini, pour essayer de sauver ce gouvernement. À mon sens, il sort un peu affaibli, tellement il s'est impliqué dans cette affaire. Et ça pourrait avoir des conséquences en cas de victoire de la coalition de centre-droit, qui pourra dire, vous êtes, cher président, intervenu de manière partisane pour sauver Mario Draghi, et donc c'est nous qui avons gagné les élections, et vous allez justement nous respecter.
quand a vraiment éclaté cette crise, Anna Bonaloumé, ça date pas là de cette fin de semaine. On le disait, il avait déjà essayé, Mario Draghi, la semaine dernière, de remettre sa démission au président Mattarella.
Oui, justement. Et à partir de ces moments-là, on avait compris qu'il y avait une fracture, mais une fracture qui pouvait être rétablie, guérie par un fait. En fait, comme vient de dire Marc Lazare, un dialogue en fait au sein de différentes, disons, parties de coalition, de majorité. Et sauf que et jusqu'à la dernière minute, en fait, on a cru possible que Forza Italia aurait appuyé, en fait, aurait voté la confiance au Sénat, au dernier vote qui a fait éclater, en fait, le gouvernement Draghi. Et donc, on avait en tout cas l'espoir et que, en fait, la responsabilité aurait vaincu sur les intérêts électoraux des trois partis qui sont le Mouvement 5 étoiles, la Ligue et Forza Italia, qui se retrouvent aujourd'hui, il faut le rappeler, dans une situation difficile, c'est-à-dire qu'ils ont perdu tous les trois, ils ont perdu l'attractivité originelle, donc. Et on a cru pouvoir penser qu'ils allaient choisir de appuyer, de revenir en fait, de reconstituer cette unité nationale, même éphémère, jusqu'aux élections. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Forza Italia, à la dernière minute, a décidé de, avec la Ligue, de suivre les mouvements 5 étoiles dans leur fracture, dans leur tentative de faire tomber le gouvernement, en fait. Et donc, oui, évidemment, on a cru pouvoir retrouver Draghi, mais en fait les jours après, les Italiens étaient complètement désemparés, en fait, parce que c'est une crise assez surréelle, c'est assez différent par rapport aux autres crises qu'on a vécues, parce que là les raisons ne sont pas tout à fait clair, et même les partis qui ont provoqué ça, y compris Giorgia Meloni, qui est, c'est vrai, elle est à l'opposition,
mais à la tête de
Ferrer d'Italie, elle n'arrive pas non très bien à, enfin, ses forces n'arrivent pas très bien à expliquer les raisons de cette crise, en fait. C'est quelque chose qui a surpris tout le monde et aussi montre encore une fois à quel point les hommes politiques italiens privilégient l'intérêt électoral, et ils sont très très forts dans la campagne électorale, et c'est un peu le point fort de ces partis, c'est-à-dire qu'ils mènent campagne électorale très 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 souvent, en fait, comme vous pouvez le voir, puisqu'il y a une instabilité majeure en Italie, mais ils n'arrivent pas vraiment à garder une stabilité, une sens du responsable, un sens du gouvernement de l'État, en fait. Donc moi je trouve que ça a montré encore une fois à quel point il y a une différence entre les hommes politiques français et les hommes politiques italiens. C'est-à-dire il faut se rappeler que les hommes politiques français se forment à l'ENA, ils ont une formation, ils ont vécu dans les ministères, ils ont une formation politique importante, une culture politique importante, tandis qu'en Italie souvent le niveau de la classe politique italienne ne peut pas être comparé à celui des hommes politiques français. Donc souvent, on se retrouve avec des gens qui ont vraiment, qui font des calculs médiocres, comme dans les cas de cette crise-là. Vous voyez, en fait, pourquoi les hommes politiques italiens, ils ont choisi de voter le 25 septembre? Pourquoi cette date? Parce que, en fait, le 24 septembre, d'un point de vue technique, les députés qui ont été élus au premier tour, en 2018, ils auront droit, techniquement, à leur retraite. C'est-à-dire que, évidemment, ils provoquent une crise, mais, bien sûr, une crise confortablement, bien assis dans leur, bien confortable pour eux, en fait. Donc, vous voyez les niveaux en fait, le sens de la responsabilité de ces, en plein crise internationale, il y a la décision de couper avec, en fait, alors pour moi l'image qui peut montrer la situation actuelle, c'est la suivante: le funambule tombe, ils entrent les clowns. Pour moi, c'est ça.
Et on y reviendra. Si on rembobine, comment expliquer qu'on soit arrivé à cette coalition si large en février 2021, coalition qui allait donc de la gauche à l'extrême droite et qui a éclaté cette semaine, Marc Lazare? Pour les Français qui ne suivent pas la vie politique italienne, ça peut étonner un petit peu.
Certainement. Alors, d'autant plus que cette législature commencée en 2018 a donné lieu à 3 types de gouvernements. Alors, ça peut paraître incroyable pour la France, mais nous sommes dans une démocratie parlementaire. Donc, effectivement, si on réembobine l'histoire, 2018-2019, vous avez le gouvernement de Giuseppe Conte 1 avec le mouvement 5 étoiles et la Ligue. Le gouvernement de Giuseppe Conte 2, c'est de 2019 à 2021, c'est cette fois-ci le mouvement 5 étoiles et le Parti démocrate de centre-gauche. Et ce gouvernement tombe pour différentes raisons. Et en 2021, la situation est très simple. Est-ce que le président de la République doit dissoudre les chambres ou est-ce qu'il essaye de trouver une autre solution? Et dissoudre les chambres, il y a un grand discours du président de la République qui dit « c'est pas possible ». C'est pas possible. On est dans une situation encore très compliquée du point de vue sanitaire. On est en train de mettre sur pied le plan national de résilience, de relance et de résilience. Il y a des éléments très importants sur lesquels il faut trancher. On peut pas se permettre d'aller dans ces conditions-là à des élections. Et par conséquent, il faut trouver une solution. Il n'y a pas de solution politique. Il essaye d'en trouver. Il n'y a pas de solution parlementaire. Et donc, il sort de sa botte, il sort de son chapeau, Mario Draghi. Alors, pourquoi les différents partis s'y rallient? Ça dépend des partis. Le Parti démocrate de centre-gauche soutient tout de suite cette opération en disant Mario Draghi, ancien président de la Banque Centrale Européenne, c'est quelqu'un de très respecté au niveau européen, au niveau international, et c'est l'homme justement capable de régler cette question très compliquée de l'usage et de l'utilisation de ces sommes considérables d'argent. Sachant qu'en Italie, très souvent, il est arrivé par le passé que la présidence de la République recourt à des personnalités non politiques pour dans des situations graves. Ça a été le cas de Carlo Azeglio Ciampi, qui était le gouverneur de la Banque d'Italie en 1993-1994. Ça a été le cas du professeur Mario Monti, le président de l'université milanaise de la Bocconi, entre 2011 et 2013. Donc là, c'est Mario Draghi. Les autres partis ont été embarrassés. Il y a eu des discussions. Est-ce qu'on soutient ou pas Mario Draghi? Et globalement, le mouvement 5 étoiles, la Ligue, Forza Italia d'ailleurs, tout de suite a décidé, Silvio Berlusconi a dit on soutient Draghi. La Ligue, le cas le plus intéressant, c'est la Ligue, qui a hésité. Mais Anna connaît ça très bien. Matteo Salvini a hésité, mais en se disant, je ne peux pas soutenir Mario Draghi. C'est un grand banquier, ce n'est pas un politique. Mais il y a eu une pression très forte de la composante qui gère de nombreuses municipalités, ou la Vénétie ou la Lombardie, plus des chefs d'entreprise qui, dans le nord de l'Italie, votent pour la Ligue, mais qui disait on peut pas se priver de cette manne qui vient de l'Union européenne. Donc pour diverses raisons, ces partis se sont dit il n'y a pas d'autre solution que de soutenir Mario Draghi. À l'époque, pas tellement comme la corde aurait soutenu le prisonnier, mais en se disant c'est une solution provisoire. Et puis vaut mieux que ça soit Mario Draghi qui fasse le sale boulot. Vaut mieux qu'il fasse ça. Régler la question de la pandémie, bénéficier des sommes d'argent, et puis après, on remettra les compteurs à zéro et on se disputera. Je voudrais vous reprendre quand même sur un point. Peut-être que Anna ne sera pas d'accord. Moi, j'hésite à qualifier, ça va peut-être choquer des auditeurs, la Ligue d'extrême droite. Je m'explique. Il y a toute une discussion actuellement en sciences politiques et en histoire pour qualifier ces formations. Je crois que c'est une formation qui est de droite radicale. C'est des petites nuances, mais qui sont importantes. Quand elle est au pouvoir, elle bouscule les institutions, mais elle les respecte. Elle a été au pouvoir dans les gouvernements de Berlusconi. Elle a été au pouvoir entre 2018 et 2019. Elle a soutenu Mario Draghi. C'est une droite radicale, dans le cas de la Ligue, avec une composante critique de l'Union européenne, pas tous, mais critique de l'Union européenne, anti-islam, anti-immigrés, mais qui globalement n'a aucun lien, par exemple, avec le fascisme. On verra tout à l'heure pour Frères d'Italie. Donc moi, je crois que si on doit la qualifier, c'est pas simplement un petit détail sémantique, c'est une formation de droite radicale qui, en plus, avait l'ambition d'être présente dans l'ensemble du territoire et plus simplement dans la Ligue du Nord, et d'autre part, qui avait comme ambition d'essayer d'occuper l'espace de toute la droite, parce que la Ligue sait très bien que Forza Italia est un parti en déclin. Silvio Berlusconi est quand même âgé, même si d'ailleurs, entre parenthèses, hein, vous disiez, il va revenir au Sénat, hein, je vous avertis. Il a déjà dit qu'il voulait être candidat au Sénat, donc on va le revoir. S'il a soutenu, d'après moi, s'il s'est précipité dans cette crise, c'est parce que comme ça, il se dit, il va y avoir des élections anticipées, je reviens. C'est Berlusconi, le retour. Hein, le retour. Et donc, après de 87 ans, ou je crois quelque chose comme ça, combien
85.
85 ans, on va le revoir arriver au Sénat. Voilà, donc, l'idée de la Ligue, c'est, on est de la droite radicale, mais on essaye aussi de couvrir l'espace plus modéré de la droite pour être le grand parti de la droite. Donc, c'est pour ça que, voilà, moi, je dirais plutôt droite radicale qu'extrême droite.
Oui, c'est vrai qu'en fait, la tentative de Matteo Salvini et de la Liga était effectivement de prendre la place de Silvio Berlusconi, qui montre de toute manière de ne pas vouloir céder le leadership du parti et de revenir au Sénat où il avait été expulsé en 2013, d'où elle avait été expulsée en 2013. Donc, en gros, oui, si on peut définir par rapport au parti de Frères d'Italie et Giorgia Meloni, naturellement, il y a une différence, un abîme une différence importante par rapport aux origines du parti, et ça c'est clair. C'est-à-dire que d'un côté, la Ligue des origines était la Ligue de Umberto Bossi, qui effectivement portait un discours très dur à l'égard des anti-migrants, et surtout, il portait un discours, fédéraliste et régionaliste, qui n'était pas connoté d'un point de vue, qui n'était pas connoté d'extrême droite, en fait. Tandis que, évidemment, Frères d'Italie est le parti héritier de Alliance Nationale, en fait.
On y reviendra. Marc Lazare, vous avez parlé un petit peu de Mario Draghi. On a compris, c'est un technocrate, ancien président de la BCE, donc pas un politique. Que représente-t-il en Italie, mais aussi en Europe?
Alors, en Italie, il a bénéficié d'une immense popularité. Toutes les enquêtes le montrent. Et là, il quitte le pouvoir, même s'il est encore à la tête du gouvernement pour quelques semaines, avec un taux de popularité extraordinairement élevé. Mais ce taux de popularité élevé, c'est que précisément, il n'est pas politique. Et par rapport à la défiance qu'ont les Italiens envers leurs responsables politiques, Mario Draghi, c'était ça. Et effectivement, il apparaissait comme un homme, justement, qui, à la différence, d'ailleurs, des deux autres précédents qu'on avait prêté à la politique pour quelque temps, Ciampi et Monti, n'avaient pas un programme d'austérité à faire, mais à répartir des sommes considérables d'argent. Donc ces deux raisons font qu'il avait une popularité très forte en Italie. Au niveau européen, c'est considérable. C'est considérable. L'Italie, à partir de 2021, retrouve immédiatement, par le fait même que Mario Draghi est là, une crédibilité européenne et internationale sans commune mesure avec ce qui existait avant, y compris par rapport à d'autres présidents du Conseil qui ont une envergure dans la critique très forte qu'en a apportée contre les responsables politiques. Il y a eu quand même Enrico Letta, qui est quelqu'un qui a une épaisseur intellectuelle et culturelle réelle. Mais Mario Draghi, si vous voulez, quand il était au Conseil des chefs d'État et de gouvernement, au Conseil européen, quand il ne parlait pas simplement en tant que représentant d'un des grands pays de l'Union européenne, mais en tant que Mario Draghi. C'est-à-dire que les pays frugaux qui ont une immense suspicion envers l'Italie, et accessoirement vers la France ou l'Espagne, considérés comme des pays dispendieux, qui ont un endettement considérable, 150% de la dette publique par rapport au PIB pour l'Italie, 114% pour la France, mais c'est Mario Draghi, donc il était écouté. Et on le voit très bien quand il y a eu ce voyage du chancelier Scholz, d'Emmanuel Macron et de Draghi, quand ils sont allés ensemble dans le train à Kiev. C'était une opération de communication, mais qui montrait le poids considérable qu'avait, grâce à lui, l'Italie repris dans l'Union européenne. Donc, c'est une perte terrible là, pour l'Italie. C'est une perte terrible de crédibilité européenne et internationale.
Anna Bonalume.
Oui, mais il ne faut pas oublier aussi qu'il faut considérer aussi le peuple italien et l'Italie tout surtout, les paysages, enfin les citoyens italiens. C'est-à-dire qu'on efface aussi, enfin, toutes ces expériences aussi techniques et aussi ces sauvetages en corner du pays, du défaut et tout. Et souvent, les transformismes des hommes politiques italiens fait que de plus en plus, on vérifie une dépolitisation du citoyen italien. italiens et on peut le vérifier facilement si on regarde les taux d'abstention qui ne sont pas d'ailleurs très différents par rapport au taux d'abstention français, parce que en 2018 on a eu 27% d'abstention, 28% en France en 2022. Et donc l'Italie, donc comme les autres, comme beaucoup d'autres pays européens, vit un moment difficile. Par-delà les questions économiques et sociales, elle vit aussi une situation très dure et difficile par rapport à son rapport à la politique en fait. Donc ça va être intéressant de voir ce qui va se passer aux prochaines élections, c'est-à-dire et aussi de voir la réaction des Italiens face à l'énième d'une tentative de penser à l'intérêt national en fait. Et donc ce que je retrouve en Italie en fait et qui me frappe face à cet comportement du corps politique, c'est la en fait c'est le fait que les Italiens ont développé rapidement une capacité à répondre à leurs besoins par eux-mêmes en fait, malgré l'État et la politique. Donc il y a une sorte de déception vis-à-vis des hommes politiques et une habitude au désordre, disons, économique et social, et ce qui fait en fait que il y a une recherche d'une figure autoritaire aussi, un sauveur, une figure qui va sauver l'Italie, et je pense que Giorgia Meloni essaiera de surfer sur cette idée-là en fait. Et
justement, on va l'entendre.
L'Europe serait inquiète si on entrait au gouvernement? Je veux bien le croire. Nous sommes un parti de patriotes. Les morceaux d'Italie que le Parti démocrate a vendus aux Français et aux Allemands, nous ne les vendrons pas.
France Culture, le magazine du week-end, Margot Delpierre.
Et c'était donc Giorgia Meloni qui préside ce parti Fratelli d'Italia, fondé il y a une dizaine d'années. Parti post-fasciste, néo-fasciste, du coup on le définit comment celui-ci?
Alors
Marc
là,
Lazare.
C'est une question qui suscite des controverses, des polémiques et qui vont susciter de plus en plus. Et c'est compliqué. C'est une formation qui vient du néo-fascisme. Après les 20 années de fascisme, après la Seconde Guerre mondiale, il y a un parti qui s'appelle le Mouvement Social Italien, qui est un parti héritier du fascisme, et il y a eu une série de transformations de ce parti, mais notamment Madame Giorgia Meloni, très jeune, est entrée en politique à l'âge de 15 ans à Rome, et elle a adhéré à ces formations qui sont des formations néo-fascistes d'extrême droite. Alors, est-ce que son parti aujourd'hui est peut-être encore qualifié de néo-fasciste? Là, il faut être vraiment très prudent, et vraiment en quelques minutes. Oui, il y a un héritage incontestablement lié au fascisme, parce qu'il y a un certain nombre de militants qui le sont, qui sont des nostalgiques de Mussolini, qui aiment bien lever le bras quand il le faut, qui se recueillent devant la tombe de Mussolini. Quand on lit Il Secolo d'Italia, le journal du Fratelli d'Italia, on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup d'allusions au fascisme. Donc, il y a cet élément-là. Elle, ce qu'elle essaye de faire, c'est de transformer ce parti en une formation conservatrice, pour ne pas dire parfois réactionnaire, traditionnaliste, nationaliste, anti-islam, anti-immigrés, violemment, tout ce qui est anti-LGBT, anti-théorie du genre, etc. Ça, c'est ses positions. Et elle se présente comme femme, chrétienne et italienne. Voilà. Donc, à mon sens, elle est dans une opération, parce qu'elle a compris quand même qu'elle veut accéder au pouvoir. Elle pourrait être la prochaine présidente du Conseil italien, qu'elle ne peut pas rester donc dans cette logique du fascisme, mais qu'elle essaye d'en sortir pour aller encore une fois vers cette formation de type conservatrice. Mais par rapport au fascisme, juste un point, ce n'est pas quelqu'un qui, jusqu'ici, à ma connaissance, a répudié le fascisme, jamais l'a condamné, et simplement ce qu'elle fait, et c'est un artifice qui est vraiment problématique, c'est de dire, mais pourquoi revenir là-dessus? Le fascisme, c'était il y a 100 ans, nous sommes en 2022, moi je ne l'ai pas connu, pourquoi revenir? Laissons tomber ça. Parce que justement, elle ne veut pas casser son parti par rapport à la composante qui reste au fascisme. Donc toute l'ambiguïté, c'est ça. Elle, à mon sens, elle n'est pas fasciste, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'un parti fasciste? C'est un parti militarisé, c'est un parti qui pratique la violence, c'est un parti, la violence physique, c'est un parti qui se réfère aussi à un certain type d'idéologie. elle n'a pas ça, mais il y a une forme de complaisance avec l'héritage du fascisme.
Oui, d'ailleurs.
Alors, oui, qui est Giorgia Meloni et quelle vision défend son parti et Fratelli d'Italia, Anna Bonalume?
Alors, juste pour rebondir sur ce qui vient de dire Marc Lazarin, c'est vrai, il y a une complaisance réelle entre, enfin, qu'elle affiche souvent, et notamment, il y a des affiches de campagne d'elle où elle reprenait des images d'Almirante, donc qui est un mouvement social italien, donc parti néofasciste, et en fait elle reproduisait l'affiche du mouvement social italien, donc d'Almirante, le visage d'Almirante, et elle mimait en fait Almirante, et il reprenait le slogan du parti mouvement social italien. Et ça passe. Pour beaucoup, ça passe inobservé. Pour d'autres, donc c'est-à-dire les militants, les sympathisants, son parti, c'est un moyen évident pour, disons, lancer des messages, pour vous dire je vous ai pas oublié et je continue d'incarner cette partie, ces valeurs qu'on serait censé abandonner pour nous montrer plus institutionnel, plus proche de l'Union européenne, de Bruxelles, des idées en fait progressistes, mais et donc il y a toujours ces liens en fait, mais et ce qui est intéressant, moi je trouve par rapport au parcours de Giorgia Meloni, c'est que d'un côté elle revendique clairement, comme elle l'a fait lors du meeting de Vox qu'elle vient de commenter dans un entretien dans la presse italienne, c'était un meeting dans lequel elle est clairement s'est positionnée contre les LGBT, contre une invasion en fait selon des tons qu'on retrouve aujourd'hui en Russie par exemple dans le discours politique qui oppose la Russie orthodoxe et l'Europe décadente qui se fait envahir par des idéologies venues d'Amérique comme celle du genre et de l'LGBT. Donc elle s'était clairement positionnée d'une manière féroce et même très dure, et elle a été critiquée même au sein par certains membres de partis de droite qui se prennent leur distance par rapport à ça. Et aujourd'hui, elle a commencé à prendre des distances aussi. Elle a dit que ses tons avaient été excessifs. Mais si on lit son livre, qui a été un best-seller d'ailleurs, un des livres politiques les plus vendus en Italie, c'est qu'on peut retrouver sa vision en fait, qui est notamment de défendre la famille traditionnelle et la question de la patrie et la question aussi de la maternité, parce qu'elle se revendique en tant que mère italienne chrétienne, et donc évidemment revenir à une image de la femme qui est censée se reproduire en fait et assurer la transmission des valeurs de la patrie, donc qui est une image qui nous rappelle beaucoup des anciennes, des monstres du passé, en tout cas, de ces choses qu'on était censé avoir, qu'on avait censé être dépassé. Mais il y a une contradiction et claire, disons, dans le parcours de Giorgia Meloni, parce qu'elle s'est revendiquée de mère catholique et de traditionnaliste, et pourtant, elle a un enfant, elle est pas mariée, et ça, c'est assez intéressant, parce que, en fait, si on vérifie ça, et ça c'est une chose sur laquelle je travaillerai, et en fait en Europe, les leaders de partis d'extrême droite, et ce sont surtout des femmes, il faut le rappeler, on peut penser à Marion Maréchal, Giorgia Meloni, on peut penser encore une fois à Marine Le Pen, mais aussi à Alice Weidel en Allemagne, leader de AfD, secrétaire générale de l'Alternative for Deutschland, parti d'extrême droite, et toutes ces femmes, elles revendiquent et elles incarnent des valeurs absolument réactionnaires, traditionnalistes, et pourtant, elles ont des parcours qui ne sont pas du tout en ligne avec les valeurs représentées par leur parti. Donc, je rappelle que Alice Weidel en Allemagne, elle est homosexuelle, elle a adopté un enfant avec sa compagnonne et elles vivent ensemble. Donc, du coup, et pourtant, dans le programme de l'AFD, ce qui est revendiqué, c'est la famille traditionnelle. Donc, encore une fois, on voit des personnages encore éclectiques et en fait, en tout cas, qui représentent, qui incarnent des contradictions majeures.
Une dernière question rapidement, Anna Bonalume, vous dites dans votre livre un mois avec un populiste que l'Italie est un laboratoire politique. Est-ce que la crise qu'on vit en Italie peut préfigurer de tendances ailleurs en Europe, en France notamment? Ou alors non, vous disiez que les hommes politiques français n'avaient rien à voir avec les Italiens.
Il faudra voir. Moi, je trouve que par rapport à la politique française, il faudra voir ce qui va faire la France insoumise d'un côté. C'est si elle va se parlementariser davantage, le Rassemblement national est en train d'essayer de s'opposer à la France insoumise pour montrer d'avoir une crédibilité aussi de gouvernement. Et donc moi, j'attends de voir comment ça va évoluer, c'est-à-dire si les députés français vont essayer de penser à l'intérêt national face à cette crise et aussi acquérir une certaine crédibilité électorale et politique, ou bien je pense pas que ça sera la situation entre l'Italie et la France. Il y a vraiment un gouffre, je pense, d'un point de vue politique. On peut pas s'attendre, je pense, à des surprises. Enfin, de mon point de vue, ça sera difficile d'avoir les mêmes surprises surréalistes qu'on retrouve en Italie, en fait.
Merci pour vos précisions, Anna Bonaloumé, journaliste politique. Je rappelle donc votre livre, Un mois avec un populiste. Vous avez suivi Matteo Salvini, livre paru cette année chez Pauvert. Merci à vous, Marc Lazare, professeur d'histoire et de sociologie politique, auteur notamment de Peuple Crassi, la métamorphose de nos démocraties, chez Gallimard. Cette émission a été préparée avec Jules Crétois, Balthazar Sibieux, de Lise Combe à la réalisation et Hugo Renard à la technique. Le magazine du week-end revient samedi prochain. D'ici là, vous pouvez l'écouter sur franceculture.fr et l'application Radio France.